Europe 1,
11h midi 30,
bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Mélanie.
Bonjour.
Bienvenue dans Bien fait pour vous, votre nouveau magazine dédié au bien-être et au mieux vivre, tous les jours en direct de 11h à 12h30.
Et oui Julia, du lundi au vendredi, on parle de notre vie quotidienne, comment mieux consommer, mieux gérer notre vie de famille, nos amours et même notre boulot.
Vous l'avez compris, ici tous les matins, on va prendre soin de vous et vous donner nos meilleurs conseils, partager nos bons plans. Et d'ailleurs, sachez-le, ici on vous donne la parole. Alors n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions au 39-21 sur le répondeur d'Europe 1 ou encore sur Twitter sur le hashtag Europe 1.
Alors comme tous les jours dans Bien fait pour vous, on va attaquer par une question de notre vie quotidienne aujourd'hui, c'est le job idéal existe-t-il ?
Et oui Mélanie, une question sur laquelle on n'a pas tous la même idée, on verra donc ensemble comment l'identifier, ce boulot de nos rêves, comment peut-être aussi se rendre compte que finalement on l'a déjà trouvé et qu'on est exactement à sa place dans un travail qui correspond à nos aspirations profondes.
Et oui, toutes les réponses à ces questions et bien d'autres. Ce sera avec notre invitée, nous recevrons Marie Hombrook. Son métier, c'est chasseur de tête. Elle est spécialisée dans le recrutement pour des cabinets internationaux.
Et ensuite, dès 11h30, ce sera notre rubrique Tendance, avec tous les jours deux de nos chroniqueurs qui dénichent pour nous les objets qui font le buzz, les soins et même les tendances insolites.
Ce matin, Soizic Belin et Maud Ravier seront avec nous. Avec elles, on parlera de ces applis Femtech, des applis qui facilitent le quotidien des femmes. Et puis, on parlera de bronzage aussi. Oui, ça sent un peu la fin de ce côté-là, mais vous verrez, quelques astuces simples permettent de prolonger notre mine estivale.
Et enfin, à midi, dans la dernière demi-heure de l'émission consacrée tous les jours à votre santé et votre bien-être, je vous propose de partir en guerre contre ces bestioles particulièrement redoutées des parents en cette rentrée. J'ai nommé les poux.
Je déteste.
Ah, je suis sûre que vous les détestez autant que Mélanie et moi. Eh bien, on va vous expliquer comment leur faire la peau pour de bon avec le docteur Areski Izri, parasitologue à l'hôpital Avicenne de Bobigny.
Europe 1.
Eh bien voilà, vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous, votre nouveau magazine pour être mieux dans son corps, dans sa tête et même dans son travail, car c'est notre sujet du jour, Mélanie.
Exactement, Julia, ce matin, la question du jour, la voici. Le job idéal existe-t-il ?
Alors justement, lui, il adore son boulot et ça
ah,
se sent.
Oui.
Si vous dites non, on n'est pas dans la mouise.
Ah non,
hein.
J'adore.
Ah non, il ouvre le bal pour nous dans cette émission tous les matins, il a toujours la pêche. C'est Clément Lanoux, bonjour Clément.
Je suis à l'accueil, merci évidemment, j'adore mon boulot. Bah, c'est vrai que je suis parfois au théâtre sur scène, sinon avec vous dans le studio, je suis l'homme le plus heureux du monde. Et là, je suis parti avec une mission super sympa, arrêter des gens dans la rue et leur demander, pour vous, c'est quoi le job de rêve, le job idéal ? Il y a eu toutes sortes de réponses.
Il y en a plein. Comme ça, je pense à œnologue.
Moi, c'est partir à Dubaï et faire Instagrammeuse.
Et là, vous avez combien de followers ou combien de personnes sur Insta ?
70.
Ouais. C'est un bon début.
Très bon début.
Mon job de rêve serait d'avoir un camping pour pouvoir animer des soirées, être proche des gens, parce que j'adore les gens.
Le job de rêve, c'est d'être payé pour faire des choses qu'on aime. Par exemple, les testeurs de restaurants et d'hôtels, je trouve ça topissime.
Moi, j'aimerais suivre le soleil.
C'est-à-dire
bouger avec le soleil. C'est-à-dire que toute l'année, je suis avec le soleil. J'ai chaud, voilà. Toujours l'été.
Il fallait bosser dans un club de vacances.
Oui, mais avec une famille, c'est un peu compliqué.
Et le problème est là, la plupart du temps. Mais pourquoi vous le faites pas ? Il y a l'idée. Mais pourquoi vous le faites pas ? Ben parce que j'ai une famille, parce que je peux pas tout plaquer. Et le sujet, je vous le dis, hein, hors antenne, on en a parlé hier à la cantine, quand on a su qu'il y avait ce sujet. On s'est même évoqué, Julia, Mélanie, votre job de rêve à vous, si vous pouviez tout plaquer, même si vous adorez votre métier, ce serait quoi votre job de rêve ?
Moi, c'était danseuse classique, mais il va falloir que je perde un peu de kilos, je crois.
Ça
et
peut
moi,
le faire.
J'aurais adoré être patronne de spa dans le monde entier.
Patronne de spa, mais vous ne faites pas masser du coup, c'est vous qui gérez les massages des
autres.
Non,
vous avez raison, c'est pourri.
Ouais, faire testeuse de massage, c'est pas mal. Alors parmi les personnes que j'ai interrogées, j'ai eu la chance de trouver un monsieur vraiment qui lui, selon lui, avait son job de rêve.
Bah, c'est mon job d'aujourd'hui. Bah, moi, je suis conseiller immobilier, je me dégage du temps. Le mardi, je vais à la pêche. Le jeudi, je vais à la salle de sport. Et entre midi et deux, je récupère mes enfants à l'école et je mange avec mes enfants. Donc honnêtement, quoi de mieux quoi.
Est-ce que vos collègues ou votre patron est au courant ?
Sûrement pas, c'est pour ça que je donnerai sûrement pas mon nom par contre.
Donc voilà, c'est un des critères qui est revenu, c'est quand même savoir gérer son temps. Il y a plusieurs critères, il y a une femme que j'ai croisée qui avait deux critères. Elle a failli avoir son job de rêve, mais il lui manque un critère.
C'est quoi selon vous un job de rêve ?
Ben, c'est travailler avec des gens que j'aime et apprécier le travail que je fais en fait.
Et c'est ce que vous faites aujourd'hui ?
Alors j'apprécie mon travail, mais non, par contre je travaille avec des cons.
On embrasse les collègues de cette dame qui se reconnaîtront et qui apprécieront. Et pour finir avec de la douceur, évidemment, j'ai demandé à ceux qui ont toujours la vérité, j'ai demandé aux enfants qui, selon eux, en fait, quel est le job de rêve ?
Être pâtissier, parce que je voudrais faire plein de gâteaux.
Pour moi, le plus beau métier, c'est footballeur. Tu mets un but et tu deviens milliardaire.
C'est dentiste. Je prends beaucoup d'argent, je fais souffrir les gens.
J'hygiène. Ok, c'est un métier grave à risquer, mais genre d'un autre côté, je sauve les gentils en général.
Autre super métier.
Président de la République.
Non, non, c'est quoi horrible.
Si t'es mauvais, t'as tout le temps des caricatures de toi. Donc, enfin, genre, c'est où on t'aime bien ou on t'aime pas, genre.
Ils vont rien faire. Parce que t'as toujours ton équipe avec toi, genre t'as les militaires, t'as tout, tu contrôles tout.
Ah, moi je veux faire constructeur de pièces Lego parce que dans ma chambre j'ai plein de Lego.
Alors j'aimerais bien faire coiffeuse, après faire nounou et après travailler dans un restaurant.
Agent immobilier, chasseur d'appart.
Moi, je vais être chirurgienne, écrivaine et archéologue.
Voilà, ça fait des bonnes journées, trois en un. Et on a parlé dedans, il y a un petit qui veut faire partie du GIGN. Restez là, vous allez voir que c'est pas si éloigné, parfois, avec le job de rêve. On en reparlera sûrement tout à l'heure.
Ouais, la façon de le trouver, on va voir. On va utiliser les méthodes du GIGN aujourd'hui. Alors, merci Clément Lanoux, on vous retrouvera bien sûr lundi avec encore du bon travail de terrain. Grâce à vous, on a de la chair, on a du concret pour
démarrer. Avec plaisir,
pour démarrer.
Puisque je fais le job que je veux, je reste encore quelques minutes avec vous.
Vous avez raison, on accueille tout de suite notre invité. Bonjour Marie Hombrouck.
Bonjour, merci de me recevoir aujourd'hui.
Vous êtes ancienne avocate en droit des affaires, désormais spécialisée dans le recrutement pour des cabinets internationaux. Vous êtes ce qu'on appelle une chasseuse de tête, chasseur de tête, je ne sais pas. Et vous publiez cette semaine ce livre. Et si vous trouviez enfin le job idéal aux éditions Vibert, alors ça tombe bien, c'est notre sujet du jour. Si vous avez écrit ce bouquin entier dessus sur le job idéal, c'est qu'il existe quand même.
Alors chacun sa réponse et on a pu le voir avec la chronique de Clément, ça va vraiment de tout type de poste. Finalement, il n'y a pas de bon ou mauvais job idéal. Chacun y voit ce qu'il veut. En tous les cas, moi en tant que chasseur de tête, ce que j'invite les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui à faire, c'est deux choses. La première chose, c'est se positionner à un instant T, c'est-à-dire aujourd'hui, moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Parce que finalement, dans une carrière, nos aspirations évoluent. Vous n'avez pas les mêmes envies au début de votre carrière, au milieu de votre carrière et à votre en fin de carrière. Donc ce qui est important, c'est vraiment de commencer à se dire, aujourd'hui, moi, qu'est-ce que j'ai envie à cet instant T ?
Julien, mais vous, Marie, est-ce que vous considérez que vous avez le job idéal ? Je rappelle que vous êtes chasseuse de tête. Est-ce que c'était le job idéal quand vous aviez 8 ans ? Vous disiez, je veux absolument chasser de tête.
C'était plutôt la perdrix que vous voulez chasser.
Est-ce qu'il y a des périodes de chasse pour les chasseurs de tête ? C'est vraiment toutes les questions auxquelles on va essayer de répondre.
Pas du tout. Alors, en ce qui me concerne, moi, à la base, je voulais vraiment être avocate dans les gros cabinets et j'ai commencé par là. Donc, dans le premier temps de ma carrière, j'étais avocate. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, je me suis vraiment demandé, est-ce que j'aurais envie de faire ça toute ma vie ? Et donc, pendant plusieurs semaines, je me suis dit, mais tiens, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire ? Et en fait, je me suis dit, non. Parce que moi, ce qui me concerne, ce qui est important pour moi, c'était d'aider les gens. Et comment j'ai réussi à concilier ce que je savais faire, d'avoir acquis le métier du droit et aider les gens ? Pour moi, c'est devenu naturellement devenir chasseur de tête, spécialisé dans les fonctions juridiques.
Dans les témoignages qu'on a entendus là tout à l'heure dans le reportage de terrain de Clément, il y avait de l'idée, président, pâtissier, GIGN, qu'on a eu d'autres.
Il y a eu tout chez les enfants, il y a eu chasseur d'appart.
Président de la République.
Président de la République, c'était pas mal.
J'ai l'impression que chasseur, en tout cas, c'est à la mode. Il y en a certains des jobs là qui ont été cités qui sont vraiment le job idéal.
Alors c'est vraiment, ça va dépendre des personnes et ça va dépendre encore une fois de chacun. Parce qu'il y a des gens qui vont aimer des choses où il va y avoir des risques. On a entendu la personne qui voulait dans le GIGN. Il y a d'autres personnes à qui ça ne va pas du tout convenir.
C'est pas globalement les mêmes critères tout le monde, c'est-à-dire l'argent, le confort et bosser avec des gens cool. C'est ce qui revient un peu dans le...
On a rarement envie de bosser pour peu d'argent avec des cons, comme disait l'autre dans le micro-trottoir.
Évidemment, mais si vous voulez, la notion d'argent, elle est relative.
Bien sûr.
Il y a des gens qui vont vous dire, moi avec 3 000 euros, ça me suffit. Il y a des gens qui vont vous dire, moi 1 500 euros, ça me suffit. Donc finalement, c'est encore une fois, c'est propre à chacun. Ce qui est important, en tous les cas, c'est bien de définir ce qu'on veut. Et une fois qu'on aura défini ça, on pourra plus facilement le trouver.
Europe 1, 11h, 12h30. Julia Vignali et Mélanie Gomez.
De retour dans Bienfait pour vous, votre nouveau magazine pour être bien dans sa tête, dans son corps et dans sa vie professionnelle, surtout aujourd'hui, car c'est notre question du jour. Le job idéal existe-t-il ou alors est-ce que c'est comme le Père Noël ? Vous m'avez compris, en tous les cas, elle nous aide à y voir plus clair sur ce sujet. Marie Hombrouck, vous êtes chasseur de tête spécialisée dans le recrutement, l'auteur de « Et si vous trouviez enfin le job idéal », paru cette semaine d'ailleurs. Qu'est-ce qui doit nous alerter ? Quels sont les signes finalement qui doivent nous faire penser qu'on ne l'a pas déjà finalement ce job idéal ?
Alors, ce qui va se passer, c'est quand vous...
Clément Lanou, je précise, est resté en studio avec nous parce que je ne suis pas sûr qu'il soit certain de lui. Qu'il soit sûr de lui.
J'adore, ouais. Mais si je peux me faire chasser de la tête à n'importe quel moment, je suis là.
Finalement, il n'y a pas de bon ou mauvais signe. Ce qui doit être vraiment un signe d'alerte forte, c'est si vraiment vous êtes en douleur sur un poste. Là, on est vraiment sur un cas où il ne faut pas rester. Après, quand on gère sa carrière, il faut toujours avoir en tête de se dire quel est le poste d'après. Et donc, la question du à quel moment je dois me mettre en recherche d'emploi est sous-jacente à cette question-là. Et la réponse est simple, c'est tout le temps. Et finalement, moi, j'ai analysé les candidats qui se font tout le temps chasser. Et qu'est-ce qu'ils ont de particulier par rapport à d'autres? C'est qu'ils sont tout le temps à l'écoute des opportunités.
Mmh. Alors, d'accord, si on est en souffrance, effectivement, il faut changer de travail. Mais est-ce qu'on doit impérativement changer de travail si on n'aime pas son travail, mais à 100% quoi? Parce qu'il peut y avoir des choses qu'on n'aime pas dans son travail et d'autres trucs qu'on aime bien, quoi. Genre lancer des disques, tout ça, mais on a du mal parce qu'on maîtrise pas très bien l'anglais. Mais...
Alors tout à fait, il y a un truc qui est important à savoir, c'est que je le dis souvent, c'est que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Ne pensez pas que si vous changez de poste, les problèmes vont être réglés d'un coup. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'est-ce qui fait que vous n'êtes plus à l'aise dans votre poste? Est-ce que vous ne progressez plus? Est-ce que vous n'apprenez plus? C'est vraiment être ça. Si vous avez juste un collègue à qui vous entendez pas, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, dans la prochaine boîte, il ne s'appellera pas Pierre, il s'appellera Paul, mais il y aura toujours quelqu'un à côté de vous que vous n'entendrez pas.
Donc, voilà, et à l'inverse, au boulot, il peut y avoir des hauts, des bas, mais globalement, on l'aime ce travail, on a le droit de le savoir et de se sentir bien. Comment savoir qu'on est exactement là où on a besoin d'être et surtout qu'il n'y a pas forcément besoin d'une étape supplémentaire? Il y a des gens qui peuvent être heureux 30 ans au même poste, non?
Ah oui, tout à fait.
Parce que vous dites qu'il faut déjà envisager la prochaine étape, mais parfois, il n'y en a pas.
Si, la retraite.
Oui, c'est ça. Après, c'est chacun gère sa carrière comme il le souhaite. Je pense que les gens qui sont dans ce questionnement de à quel moment je dois changer de carrière, quel est mon positionnement dans ma carrière professionnelle, eh bien, ces gens-là, effectivement, ils peuvent en permanence se poser la question. Après, si vous êtes bien là où vous êtes et que ça marche,
Restez-y, ne laissez rien.
Je pense qu'on le sait le matin quand on se réveille. Moi, à chaque fois que j'ai quitté des postes, je me suis levé, j'avais pas envie d'y aller. Je me suis dit, bon, on verra et il se passera autre chose. Et je suis heureux à l'instant T où je suis, c'est-à-dire même là maintenant.
Et de revenir lundi parce que vous serez encore avec
nous. Je serai encore plus heureux.
Je pense que c'est essentiel, c'est ça, c'est écoutez-vous. Finalement, on le sait.
Écoutez-nous aussi à la radio.
Ne vous mentez pas, finalement, on le sait quand on est bien dans un poste, quand on a envie d'y aller, quand on n'a plus envie d'y aller, ça se sait.
Alors, vous nous disiez tout à l'heure que notre job parfait à 20 ans n'est pas forcément celui qui sera parfait pour nous à 40 ans, mais est-ce qu'il y a un meilleur moment dans sa carrière ou dans sa vie pour changer de travail? Je ne sais pas, après une grossesse, pour nous les femmes, est-ce qu'il y a un moment privilégié où c'est plus opportun de changer?
Ou un âge peut-être?
Alors, il n'y a pas vraiment d'âge. Après, ce qu'on a pu observer, c'est des cycles d'expérience. On a ce qu'on appelle les juniors, c'est-à-dire de 0 à 5 ans. Ensuite, on va avoir des postes qui seront middle, de 5 à 15 ans. Et après, on aura des postes de direction au-delà de 10 ans. Donc, effectivement, généralement, c'est vers ces niveaux d'expérience qu'on a amené à évoluer. Maintenant, il n'y a pas de bon ou mauvais moment. Et encore une fois, vous pouvez très bien être enceinte et changer de poste. Mmh. À titre personnel, j'ai 2 enfants. À chaque fois que je suis revenue de congé maternité, j'ai changé de poste et ça s'est bien passé.
Donc c'est possible.
Ah oui, c'est possible.
Ouais. Comment on redéfinit justement son projet professionnel vers le job idéal? Par où on commence? Là, il y a peut-être des personnes qui nous écoutent qui n'ont jamais pensé à ça, qui disent « bon, je suis bien, mais je ne suis pas non plus le plus heureux du monde ». On se pose, on fait quoi? On commence par quoi?
On commence par déjà regarder ses compétences. On regarde son parcours et son expérience avec bienveillance et on se dit « qu'est-ce que je sais faire ?» Dans le livre « Et si vous trouviez enfin le job idéal », je suis allée voir un expert qui s'appelle Christophe Rocky, qui est professeur à l'EDEC. Et ensemble, on a essayé de définir les différents types de compétences que vous pouvez avoir. Globalement, il y en a de deux types. On va appeler d'un côté les compétences techniques, ce qu'on peut dire « hard skills » en anglais, et de l'autre côté, les compétences comportementales, c'est-à-dire les « soft skills ». Et ce qui est important de quand vous regardez votre parcours, c'est vous dire « qu'est-ce que je sais faire techniquement ?» et en termes de personnalité, « qu'est-ce qui me convient ?»
C'est intéressant, ça.
Ouais, j'essaie de le faire en même temps, et la case « techniquement » est vide. Alors techniquement, je sais enregistrer des gens dans la rue, voilà, niveau comportement, ça se passe bien.
Je mets bien la bonnette Europe 1 sur le micro, voilà. C'est technique.
C'est technique, c'est bon, je ne veux pas rester.
En tout cas, c'est un sujet qui vous fait réagir, ce sujet du job idéal. N'hésitez pas d'ailleurs à nous laisser vos questions sur le répondeur d'Europe 1, le 3921, ou encore sur Twitter, sur le hashtag Europe 1. On a justement celle-ci de Sophie qui vit en Isère. Elle demande si un bilan de compétences, ça peut aider pour faire ce travail sur soi, cette introspection professionnelle. Est-ce que c'est obligatoire d'en passer par là, Marie ?
Alors, il n'y a rien d'obligatoire. Maintenant, quand un candidat a des doutes sur son évolution et sur son parcours, je recommande fortement de faire un bilan de compétences et l'idéal d'être accompagné par un coach. Il y a une erreur que font souvent les candidats quand ils viennent voir un chasseur de tête, c'est qu'ils nous prennent pour des coachs. Mmh. Il ne faut pas confondre chasseur de tête et coach.
Oui, il faut avoir été coaché avant d'aller vous voir, en fait.
Pas forcément.
Il faut être aguerri. Il
faut être prêt. Parce que finalement, moi, mon job, ce n'est pas de vous aider à rédiger un CV, ce n'est pas de vous aider à vous poser ces questions de qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je n'ai plus envie de faire. C'est vraiment de me dire, voilà, cette personne sait ce qu'elle veut. Moi, j'ai un client qui me confie un mandat et mon job à moi, c'est de faire correspondre le besoin du client avec les attentes du candidat. C'est vraiment ça, ma mission.
Vous avez parlé tout à l'heure des soft skills, c'est ça, je dis bien. Qu'est-ce que ça comprend quoi ? Parce que bon, on a compris que le côté technique, tous les trois, là, Julia,
on est pauvres.
Clément et moi, bon, techniquement, on ne sait pas trop, mais soft skills, ça nous intéresse, il y a quoi dedans ?
Alors, si on va faire une définition négative, ouais. Si on part du hard skills, donc compétences techniques, c'est tout ce que vous allez pouvoir mesurer avec des diplômes. Par exemple,
on en a quelques-uns. Oui, quand oui. Même. Oui, ça va. On est armés, en fait, hein, les gars.
Ouais,
le permis.
Je vous donne un exemple. Vous êtes juriste en droit social. Et bien, vous avez un master ou un diplôme en droit.
Ça, on a. Mais enfin, pas en droit, mais on voilà. A. D'accord.
Et puis, à l'inverse, si on fait la définition donc, négative, tout ce qui n'est pas technique est du comportement. Alors attention, ne pas confondre les compétences comportementales avec le fait d'être sympathique. Ça n'a rien à voir.
C'est parce que là, il y en a beaucoup. Ouais. La sympathie autour, mais c'est pas une compétence.
En fait, être sympathique, ça va dépendre de votre poste, mais c'est pas considéré comme une compétence parce que ça ne se travaille pas forcément.
Ne mettez pas sur votre CV, Julien. Ça sert à rien.
Ça peut servir si on ouvre un restaurant. On préfère. Il vaut mieux que la personne soit sympathique, par
Alors,
exemple.
Alors dans ces cas-là, on va parler d'empathie. Oui. De communication, de capacité
d'être convivial.
Convivialité, ouais. Ça peut être ça. L'empathie, la capacité d'être donc dans le commercial. Mmh. C'est ça qu'on va rechercher. Okay. Et vous allez avoir des candidats qui vont être excellents techniquement, mais qui n'auront pas du tout cette capacité de travailler dans des équipes. Et pour nous, ça, ce n'est pas possible aujourd'hui en 2021.
Ouais, on ne peut pas être sympa tout seul, quoi.
Si, mais ça sert à rien.
On a un message de Norbert qu'il nous a laissé au 3921 sur notre répondeur. Je vais vous le résumer. Il dit qu'il est au chômage depuis un an et que là, il a peut-être trouvé un poste en CDI, mais il hésite car il sait que ce n'est pas le job de ses rêves, mais il n'a pas encore trouvé le fameux job de ses rêves. Alors, est-ce qu'il doit le prendre, ce contrat, ou profiter de son chômage pour trouver vraiment sa voie ?
Alors, tout va dépendre de son parcours. Donc, faire une réponse blanc ou noir, c'est un peu compliqué. Après, il faut voir si cette expérience va être purement alimentaire. Mm-hmm. Et dans ces cas-là...
C'est-à-dire, fonce, il faut payer le loyer, quoi.
Exactement. Voilà. Et si vous voulez, nous, en tant que chasseurs de tête, ce qui est important pour nous, c'est vraiment de comprendre le parcours. Il n'y a pas de bon ou mauvais parcours. Si quelqu'un me dit, moi, j'ai pris ce poste parce que je ne voulais pas être au chômage et je voulais payer mon loyer, je le comprends.
Ça s'entend, évidemment. Mais peut-être que la question sous-jacente, c'est est-ce qu'il vaut mieux chercher un emploi quand on est en poste ou au chômage ?
Une recherche d'emploi, c'est tout le temps. Donc, quand vous êtes en poste, commencez déjà à rechercher votre emploi parce que ça peut se terminer rapidement. Donc, effectivement.
Je vous remercie.
C'est ça. On va ouvrir un resto alors, hein, c'est bon. Ça.
Étape obligée, bien souvent, pour postuler pour un job, qu'il soit le job rêvé ou pas, c'est le CV. Hein. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais c'est vrai que c'est pas la meilleure expérience, je trouve, le CV. En tout cas, comment faire pour rendre le CV le plus attractif possible pour notre futur patron idéal ? Parce que s'il y a job idéal, on espère qu'il y a le patron qui va avec.
Ce que vous racontez, c'est exactement moi ce que j'ai vécu le jour où j'ai dû rechercher un emploi avant de rédiger mon CV. Alors, j'ai regardé les 10 saisons de Friends. Voilà. Je suis allée voir toutes mes copines. Et puis à un moment, on vous dit, vous n'avez pas le choix, faut y aller.
On est bien obligé de le faire.
Mais oui, mais ça amuse personne finalement de faire un CV. Et pourtant, ça peut être un jeu. Parce que, un CV finalement, c'est vous, c'est qui vous êtes. On n'est pas là pour vous piéger, c'est pas le sujet. Donc, qui vous êtes sur le fond, sur la forme, ne mentez pas, soyez très... très factuel. Après, je vais vous donner quelques petites astuces et je les reprends dans le livre. Mais faites simple. Un CV, c'est vous. Donc, ce qu'il faut, c'est systématiquement avoir un titre,
le titre de ce que vous recherchez. Si vous recherchez un poste de chroniqueur, bah, vous indiquez sur votre titre « chroniqueur ».
L'avantage, c'est qu'on peut envoyer une bande-annonce, quoi. Au moins, ouais. Pas besoin de l'écrire, le CV, d'accord.
Et est-ce qu'il faut mentir pour en rajouter ? Moi, je sais que mon premier CV, j'avais rien fait. Donc, mes parents avaient un resto, j'avais fait une fois la plonge, j'avais mis responsable du service hygiène dans tel restaurant. Est-ce qu'il faut un peu embellir le CV ?
Non. Parce que finalement, quand c'est votre première expérience, ouais. On s'attend à ce que vous n'ayez pas été président des États-Unis. Enfin, on s'en doute.
Je l'ai fait deux mois. Oui.
C'est inutile d'en rajouter, c'est ça ? Oui.
Exactement. Parce que finalement, quand on va vous avoir en entretien, on va s'en rendre compte. Et l'étape d'après,
vous êtes nul.
En anglais, ah, ok.
Oui, le fameux Brian is in the kitchen.
Voilà.
C'est pas la peine, parce que quand vous allez dans le poste, au bout d'une semaine, on s'en rendra compte.
Oui, donc on n'en rajoute pas et on est honnête avec soi-même et avec son futur employeur.
11h30 sur Europe 1, bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Vous écoutez Europe 1 et c'est bien fait pour vous parce qu'ici, on ne vous veut que du bien et on vous aide dans votre vie quotidienne avec Mélanie Gomez. Et ce matin, c'est un sujet important que l'on met à l'honneur, le travail. Alors on dit parfois que c'est la santé, le travail, mais encore faut-il en avoir un qui nous convienne, avoir trouvé le job idéal. Et dans cette mission, c'est vous qui nous guidez ce matin, Marie Hombrook. Vous êtes chasseur de tête, spécialisée dans le recrutement pour des cabinets internationaux. Et alors Marie, qu'on soit en recherche d'emploi ou en poste, mais désireux d'en changer, comment faire pour dédramatiser la recherche d'emploi? Parce que c'est parfois très anxiogène, hein. C'est un parcours du combattant pour trouver le job idéal.
Alors pour moi, pour dédramatiser la recherche d'emploi, il faut vraiment comprendre que c'est un marathon. Donc l'idée, c'est pas de partir vite et de donner son CV un peu partout dans la rue, parce que ça va pas marcher. Par contre, ce qu'il faut faire dans une recherche d'emploi, c'est vraiment la structurer et se dire, je peux en avoir pour 3 semaines, peut-être 6 mois, peut-être 1 an, et c'est pas grave. Par contre, soyez vraiment structuré dans ce que vous allez faire. Dites-vous, faites-vous un espèce de rétro-planning et dites-vous la semaine 1, je vais rédiger mon CV, la semaine 2, je vais préparer mes réseaux sociaux et ainsi de suite. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, il faut vraiment avoir de la continuité et de la régularité dans vos actions.
Bon, pour dédramatiser le conseil, le marathon, moi, ça me fait encore plus mal.
C'est une image.
Marie, on a encore des réactions, des questions de nos auditeurs pour vous. Il y a ce message, par exemple, que j'ai reçu donc, via Instagram de Sabrina. Elle a 32 ans. Elle demande si envoyer son CV, bah, vous venez un peu d'y répondre, hein, à la terre entière, c'est pas au final augmenter ses chances de tomber sur le job idéal. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, je pense.
Alors, chacun sa stratégie. Ouais. Je pense que la stratégie payante, c'est en fait de bien se renseigner à qui vous envoyez le CV. Et en fonction de ça, vous aurez peut-être plus de chances d'avoir un retour. Je vous donne un exemple concret. Moi, je suis spécialisée sur les recrutements pour les fonctions juridiques et RH. Si vous êtes boucher ou si vous êtes boulanger...
On ne vous envoie pas notre CV.
Bah, malheureusement, je ne pourrais pas répondre parce que je n'aurais pas de mandat. Donc, pour moi, c'est pas forcément une stratégie gagnante.
C'est comme sur les sites de rencontres, en fait. Si on like tout le monde, il y a plus
si
de chances.
Vous êtes boucher, envoyez éventuellement à Clément Lanoux, qui est toujours avec nous,
avec
votre candidature, il pourra peut-être vous aider.
J'ai des amis.
Alors, puisqu'on parle du CV, il y a aussi cette question de Roland, qui habite à côté de Dijon. Il dit, franchement, c'est dur à 58 ans pour moi de retrouver un emploi, d'autant que ça se voit bien sur mon visage, que j'ai plus 20 ans. Et il nous demande si la photo sur un CV, c'est toujours obligatoire.
Il n'y a rien d'obligatoire. Un CV, c'est vous. Après, très clairement, quand nous, on a un CV avec une photo, ben, ça va plus nous donner envie d'aller vers cette personne. Ouais. Parce que ça humanise, en fait. Après, concrètement, vous avez 58 ans, ben, on ne va pas le cacher. Je veux dire, il va avoir le nombre d'années d'expérience qui va avec. Donc, encore une fois, c'est lui.
Et puis Roland, ils ont rarement 18 ans. On les embrasse.
On embrasse tous les Roland qui nous écoutent. Marie, est-ce qu'avoir échoué professionnellement depuis longtemps, est-ce que c'est grave? Peut-on vraiment espérer? Puisqu'on parle du job idéal aujourd'hui, mais vous allez nous donner une touche d'espoir. Répondez pas oui, c'est foutu, parce que sinon, on n'a plus personne. Mais quand on a beaucoup raté sur le plan professionnel, on peut encore avoir l'espoir de le décrocher, ce job idéal?
Mais évidemment. Et finalement, dans l'échec, ce qui est intéressant, c'est pas où est-ce que vous êtes tombé. Ce qui est intéressant, c'est comment vous êtes relevé. Et moi, en entretien, quand je pose cette question au candidat, comment vous êtes tombé? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est pas bien passé? Finalement, ce qui m'intéresse, c'est pas vraiment de savoir le cancan de l'histoire de cette entreprise et du candidat. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de voir qu'est-ce que le candidat a mis en place pour que derrière, il puisse rebondir.
Pour trouver le job idéal, Marie, est-ce que c'est important de développer son réseau, ses connaissances professionnelles, et notamment, je pensais aux réseaux sociaux professionnels type LinkedIn, Viadeo, tout ça, c'est important ?
Tout va dépendre du poste que vous recherchez. En tous les cas, sur les fonctions cadres en entreprise...
C'est pas mal.
C'est plutôt pas mal.
Ça marche.
Oui, c'est important parce qu'on l'a vu en ce moment avec la période de Covid, c'est beaucoup plus dur de faire du réseau physiquement. Il n'y a plus de soirées petits fours. Et donc, on a cette chance de pouvoir continuer à faire du réseau via les réseaux sociaux.
Alors, oui, alors quand vous dites via les réseaux sociaux, on est d'accord, réseaux sociaux professionnels, on évite de donner son Insta, son Facebook en soirée, tout ça, il faut faire attention à ça aussi.
Alors effectivement, il va falloir faire très attention parce que sur les réseaux sociaux, ce que vous allez communiquer, les gens vont y avoir accès. Et moi, j'ai déjà des clients qui ont refusé des candidatures.
On allait voir sur Facebook ce qu'ils avaient mis perso, quoi, c'est ça. Ouais.
Parce que je suis très sérieux sur LinkedIn et sur le réseau en face, on est 15 dans la piscine sans masque, en plein Covid. Ah oui, non.
Oui, alors après, ça va dépendre aussi du poste que vous recherchez. Si vous êtes sur un poste créatif, ça peut avoir un sens d'avoir un Instagram qui peut être particulier. À l'inverse, si vous êtes sur un poste, on va dire en entreprise, en bureau, ça sera plutôt sur LinkedIn, effectivement.
Il y a aussi sur la page Facebook d'Europe 1, Thibaut P. à Nîmes, il vous demande si, quels sont vos bons conseils pour bien préparer son entretien d'embauche pour son job de rêve, même s'il dit avoir peu d'espoir déjà de le décrocher. Bon, je m'arrête là, mais enfin bref, vos conseils pour les entretiens d'embauche, et on va donner de la motivation à Thibaut P. qui n'a pas l'air en pleine forme, dites-nous.
Alors, la règle numéro 1 pour l'entretien d'embauche, une règle d'or, c'est la préparation. Plus vous serez préparé, plus vous serez renseigné sur la personne que vous allez rencontrer, le lieu, l'entreprise. Est-ce que l'entreprise est en situation positive ou est-ce qu'elle est plutôt en situation de crise négative ? Plus vous aurez ces informations, plus vous serez pertinent en entretien.
Alors ça y est, on a décroché l'entretien pour le job idéal. Quelles sont vos préconisations pour faire bonne impression, puisqu'on n'a qu'une fois l'occasion de faire bonne impression ? Est-ce que d'un point de vue vestimentaire, vous avez des conseils à nous donner sur l'hygiène également ?
Une petite douche le matin, c'est
quand
même pas mal.
Est-ce qu'il est suffisamment rasé, par exemple Clément Lanoux, pour l'entretien, la barbe ?
Alors moi, je ne sais pas ce que vous allez apprendre, mais moi j'ai cette théorie, comme on en revient à un premier rendez-vous, première impression, c'est de venir vraiment le plus naturellement possible, en faisant un effort. Mais si on vient trop saper le jour de l'entretien, le lendemain...
Vous êtes arrivé en costard la première, et là tout d'un coup, il y a du laisser aller.
C'est vrai que là, je suis à l'aise en tongs, c'est ce que vous me disiez.
Alors c'est une vraie question qu'on s'est posée dans le livre, on y répond avec Laurent Bauer, qui est un directeur juridique, et on s'est demandé, est-ce que oui ou non, on met une cravate en entretien ?
Bah oui.
Une vraie question. Oui. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ça va dépendre du poste que vous recherchez. Si vous recherchez un poste...
De vendeur de cravates,
oui.
Bien à choisir.
Si vous recherchez un poste dans une banque, si vous recherchez... Donc, dans ce cadre-là, oui, évidemment.
En gros, un poste où vous serez amené à mettre des cravates, quoi. C'est
exactement.
Ça, non ?
Il faut s'adapter au code, en fait.
Exactement. Et on revient sur la règle d'or. Renseignez-vous. Donc, regardez sur le site de l'entreprise comment sont habillés les gens.
Le trombinoscope, quoi.
Exactement. Allez sur le trombinoscope. Si vous voyez que tout le monde est en cravate, bah, naturellement, vous habillerez avec une cravate.
Oui, parce qu'arriver overdressed, comme on dit aussi, trop sapé, ça peut aussi être contre-productif si on est dans un métier créatif, par exemple.
Tout à fait. Et on le voit aussi avec les start-up, hein, les nouvelles entreprises, où les codes sociaux ne sont pas les mêmes que ceux dans les grands groupes du CAC 40. Et voir arriver quelqu'un trop sapé, ça peut être en décalage et on pourra se dire, est-ce que la personne va bien s'intégrer dans notre entreprise ?
Alors, si votre souhait, c'est de travailler à Europe 1, oubliez les tongs. Il n'y a que Clément Lanoux qui porte des tongs en studio. Moi. Julia et moi, on est un peu habillés quand même. Alors, aujourd'hui, Marie, la réalité, c'est que beaucoup d'entretiens se font en visioconférence, surtout depuis le Covid. Malheureusement, on n'a plus forcément l'entretien d'embauche dans les locaux de l'entreprise. Est-ce que là, il y a des choses à faire ou à ne pas faire ? Pour le coup, si on porte des tongs sous la table, ce n'est pas bien grave. Il ne le verra pas, le futur employeur.
Oui, on revient sur la préparation. Donc, isolez-vous, mettez-vous dans un endroit assez neutre. Alors j'ai déjà eu le papier peint, la Reine des Neiges derrière, bon, pourquoi pas. Quelle est l'image que vous voulez renvoyer, en fait, c'est ça. Donc isolez-vous.
Vaut mieux le papier peint que les enfants qui passent derrière quand même lors d'un entretien.
Exactement, ou le mari, ou le chien, le chat, enfin bon bref. Ce qui est important, c'est prévenez votre entourage, dites-leur, voilà, là je vais avoir un entretien, laissez-moi travailler pendant une heure. Et effectivement, testez votre son, testez le matériel, et mettez-vous dans des conditions réelles d'un entretien d'embauche.
Alors, qu'est-ce qu'on dit quand on nous demande, d'ailleurs je déteste cette question, nos qualités et nos défauts ?
Alors, s'il vous plaît, là, je fais un appel à tous vos auditeurs. Ne répondez jamais. Je suis perfectionniste.
Ça évite d'être proscrit. Ça y est,
voilà,
c'est terminé.
Je suis peut-être trop ponctuelle. C'est ce qu'on me reproche énormément d'arriver toujours à l'heure.
Finalement, cette question, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière ? Et ce qu'il y a derrière, c'est qu'est-ce que je vais mettre en place pour travailler mes défauts ? Si, par exemple, je suis quelqu'un de pas très organisé, eh bien, encore une fois, je peux le dire en entretien, mais je ne suis pas la personne la plus organisée, c'est pour ça que je travaille dessus. Et on va expliquer comment on va travailler dessus. Je ne parle pas bien anglais, c'est pour ça que je prends des cours d'anglais pour améliorer mon anglais.
Une dernière question sur le répondeur d'Europe 1, le 3921. Il y a Mickaël qui nous a laissé un message. Il voudrait savoir s'il faut, il faut dire quand on a un trou dans son CV, est-ce qu'il faut être honnête ou mytho ? Clément, vous, peut-être, vous voulez lui répondre.
Moi, je pense que je ferais le mytho, j'inventerais. Bah, j'ai été trois ans à l'étranger pour le service secret de la France. Je n'ai pas le droit d'en parler, mais en tout cas, sachez que vous me devez beaucoup.
Voilà. Bon, Marie, sérieusement, si on a un trou dans le CV pour une raison X ou Y, qu'on a été faire le tour du monde, c'est fait plaisir, on le dit, on le dit pas.
On le dit, évidemment. On le dit. Pourquoi ? Parce que finalement, on va vous prendre pour qui vous êtes. Et si une entreprise ne vous prend pas, c'est pas très grave. Il y en aura d'autres des entreprises. Donc, il y a certaines boîtes qui vont trouver ça génial que la personne est voyagée et d'autres pas du tout. Et si vous
c'est voyager sur le canapé, c'est plus difficile.
Voilà. Mais il faut mentir et dire voilà, j'ai été perfectionné mon anglais pendant 3 ans. Voilà.
Mais c'est super. On n'a pas parlé salaire, hein, mais il faut négocier.
Ah, toujours.
Et bien négocier. Hein.
Effectivement. Dans le livre, justement, c'est ce qu'on a, on allait voir des spécialistes de la négociation, puisque j'ai passé plusieurs jours avec des membres du GIGN.
Et carrément, pour un salaire bien. Et vous les emmenez avec vous à chaque entretien d'embauche ?
Évidemment. Ouais. D'ailleurs, je remercie fortement le général Réti qui nous a permis d'échanger avec eux. Et en fait, ce qu'eux, ils nous ont appris, c'est que négocier un salaire, c'est pas quelque chose, d'ailleurs la négociation en général, c'est pas quelque chose de naturel. Donc, c'est pas grave si aujourd'hui vous ne savez pas négocier, parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas le faire, mais comme toute compétence, ça s'apprend et ça se travaille.
Et donc on a toujours un copain au GIGN pour nous
aider. C'est très important à chaque entretien de dire voilà, vous me prenez si vous voulez, mais il y a deux chasseurs là-haut sur le toit, des tireurs d'élite qui vous attendent.
Merci beaucoup Marie Humbrouck d'avoir répondu à toutes nos questions et pour tous vos conseils, pour enfin le toucher du doigt peut-être un jour, ce job idéal, celui pour lequel on est fait et qu'on n'a peut-être pas encore identifié. On sait comment chercher au moins grâce à vous. Alors dans un instant Mélanie, on va passer à notre séquence tendance.
Et oui, nos deux chroniqueurs du jour arrivent dans ce studio, Soizic Belin et chroniqueuse du jour d'ailleurs, Soizic Belin et moi de Ravier avec ces applications qui peuvent nous faciliter la vie à nous les femmes et puis de la beauté. Mais là, il y en aura pour tout le monde avec des conseils bronzage valables aussi pour ces messieurs. Alors, je vous conseille qu'une seule chose à faire, restez sur Europe 1.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
De retour sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous. Du lundi au vendredi, de 11h à 12h30, c'est votre nouveau magazine Feel Good, Conso, Mieux Vivre. Alors Julia, on démarre à présent. Votre partie préférée presque, hein, je crois, c'est la séquence tendance de l'émission.
Ah oui, j'adore ça. Et d'ailleurs Mélanie, nos deux chroniqueuses sont là à nos côtés en studio. Maud Ravier, bonjour, c'est votre première fois avec nous aujourd'hui.
Oui, bonjour, enchantée. Aujourd'hui, je vais vous parler de tout ce qui est beauté et surtout comment garder un beau bronzage après l'été.
Oh mais c'est parfait ça. Et puis il y a également Soizic qui est avec nous. Soizic Belin, comment allez-vous ?
Très très bien, et vous ?
Oui, vous allez nous parler de quoi ?
Je vais vous parler des applications de Femtech.
Vous mettez la casquette geek, hein, je crois, ce matin.
Un petit peu, oui, en effet. Alors oui, je vous parle donc du marché de la Femtech. Femtech, contraction de Female and Technology. Alors le terme a été inventé en 2016 par la cofondatrice de l'application Clou, Ida Antin, une Danoise. Ce terme permettait un raccourci lorsqu'il s'agissait de parler des technologies et des innovations créées pour améliorer la santé et le bien-être des femmes. Les hommes et notamment les investisseurs pouvaient alors parler de leurs entreprises de façon plus générique, sans faire intervenir des termes plus embarrassants comme menstruation, fuite urinaire, maladie vulvaire, grossesse, etc., etc. Ce qui nous vient assez rapidement à l'esprit et aussi ce que nous utilisons le plus dans le domaine de la Femtech, ce sont les applications, donc je le disais, des applications dédiées et qui, si on les regroupe les unes avec les autres, permettent de balayer l'entièreté de la vie d'une femme, de sa naissance à sa puberté, en passant par la grossesse, en finissant par la ménopause.
Évidemment. Alors, vous choisissez, qu'est-ce que vous avez pu en tester quelques-unes ?
Alors justement, vous parliez de Clou, j'ai testé la fameuse application Clou.
Je l'ai, moi aussi, celle-là.
C'est vrai, vous l'avez ?
Ouais, ben moi, je ne sais pas de quoi il s'agit.
Je vous montrerai, je viens. Elle permet de suivre et de constater l'évolution de vos cycles, et vous pouvez gérer vos menstruations. J'ai également fait l'usage de Ma Grossesse Plus, qui me permettait, comme son nom l'indique, de suivre l'évolution de ma grossesse, avec chaque jour des infos, des photos génériques, générique de fœtus, étape par étape, des comparaisons avec des fruits pour que vous puissiez vous rendre compte de la place qu'il prend dans votre ventre, et puis un décompte du jour J. Mais évidemment, ce type d'applications fleurissent et je vais vous donner quelques noms. Glow, Natural Cycle, Ava, Bloom Life, Caria, Mia, Silex, Natif, j'en passe et des meilleurs. Alors j'ai rencontré Paola Cravero, la créatrice de l'application Vulvae. Elle vient de réussir à lever 13 000 euros grâce à une campagne de crowdfunding Ulule. Ma première question en échangeant avec elle a été la suivante. Pourquoi Vulvae ?
J'ai lancé Vulvae parce que la santé sexuelle, elle doit arrêter d'être taboue. Et il n'est pas normal, selon moi, qu'aujourd'hui, il y ait encore des personnes qui souffrent de leur vulve pendant des années, 5, 10, 15, 30 ans, et qu'on leur réponde « c'est normal » ou « c'est rien de grave » et qu'on n'essaye pas de les aider à trouver une vraie solution.
Alors, c'est assez simple. Hein. L'application proposera, en fonction des profils et des diagnostics établis à partir des données que vous allez rentrer dans l'application, des solutions, des ressources pour se renseigner. Et puis ensuite, vous serez mis en lien avec des professionnels de santé faisant partie de la fameuse équipe Vulvae. Le but étant de renseigner et de soigner les douleurs vulvaires. Alors aujourd'hui, il devient clairement difficile de nous passer de toutes ces applications. Et même si, comme moi, on pense être plus maligne en téléchargeant et en utilisant uniquement la version gratuite, rien n'est véritablement gratuit. En effet, même avec la version dite gratuite, le nombre de fonctionnalités donc seront réduites. Mais en contrepartie, vous êtes obligé d'offrir une partie non négligeable de vos données personnelles. Et cela ne serait-ce que pour faire fonctionner cette application correctement. C'est donc une sorte de troc qui s'opère, un donnant-donnant, que l'on a tendance à oublier, mais qui, oui, soyons clairs, vous permet de nombreux avantages.
Oui, mais moi j'aurais tellement peur, Soazic, que ça reste pas confidentiel. Vous imaginez, là, quelqu'un tombe sur ce genre d'informations.
Alors justement, c'est une question, c'est une problématique liée à toutes ces applications. Caroline, Lemke sort en ce début septembre, le 16 précisément, un ouvrage intitulé « Ma santé, mes données » aux éditions Premier Parallèle et je suis allée lui poser la question.
Alors, il vaut mieux réfléchir à deux fois avant de télécharger une application de suivi des menstruations, de suivi de grossesse, etc. Une récente étude a montré que parmi les applis de santé de manière générale, dont les applis de la Femtech font partie, 88%, donc quasiment 9 sur 10, sont susceptibles de collecter des données personnelles, c'est-à-dire des données qui permettent de nous identifier directement ou indirectement. Ça peut être le nom, le numéro de téléphone, le numéro de sécurité sociale, par exemple. En plus, pour effectuer cette collecte de données, l'appli a souvent besoin de recourir aux services de sociétés externes. Donc au final, 47%, à peu près une appli de santé sur deux seulement, est en règle vis-à-vis des politiques de confidentialité. Alors c'est vrai que c'est pratique de tout rentrer en quelques clics sur le téléphone, mais pour être sûr à 100% que ces données sont en sécurité, le plus sûr, ça reste encore de tout noter au stylo, sur son agenda ou dans un carnet à l'ancienne, quoi.
Alors maintenant, il va falloir peser la balance, savoir si effectivement ces applications vous sont vraiment indispensables et si vous prenez le risque de lancer et de balancer toutes vos données.
Ah ben merci beaucoup Soazic, on va y réfléchir. On vous retrouve bien sûr la semaine prochaine avec d'autres tendances. Mais restez merci là encore un petit peu avec nous parce que les conseils de Maude Ravier arrivent, l'une de nos expertes beauté dans Bienfait pour vous, qui vont certainement vous intéresser. Alors Maude, ça y est, c'est parti. Une question de la plus haute importance se pose et nous occupe en ce moment, comment garder un beau bronzage même après l'été ?
Alors aujourd'hui, je vous propose plusieurs astuces pour garder un bronzage lumineux et caramel. Et oui, les vacances sont finies, mais on peut quand même encore profiter des petites tenues légères et fleuries pendant l'été indien.
Alors justement, Maud, il paraît qu'il faut gommer la peau pendant les vacances. Il y en a qui vont peut-être encore s'organiser une semaine ou un week-end au soleil. C'est vrai l'intérêt du gommage pendant qu'on prend le soleil ?
Alors non, le gommage fait vraiment partie des meilleurs amis du bronzage. Oui, mais pas pendant les vacances. La peau est déjà trop fragilisée et agressée par le soleil, le sable, la mer, donc on évite. Par contre, je vous conseille, uniquement au retour de vos vacances, de faire un gommage à peu près deux fois par semaine, c'est l'idéal.
D'accord, mais alors un gommage maison, parce que je crois que vous avez une petite recette de gommage naturel qu'on fait chez soi et donc pas cher, donc j'adore l'idée, c'est quoi ?
Alors j'ai deux petites astuces. La première astuce, c'est d'utiliser la fameuse éponge verte dont je ne citerai pas le nom.
Mais quoi,
c'est très
pour
efficace.
La cuisine ?
Oui,
oh,
c'est très...
C'est
très efficace. C'est vraiment comme un gant de crin, donc vous pouvez tout à fait l'utiliser. Voilà, ça c'est la petite astuce qui ne coûte pas cher. Et sinon, évidemment, la tendance est au made in home.
donc, on n'est jamais mieux gommé que par soi-même. Alors, vous pourrez trouver plusieurs recettes, bien sûr, mais moi, ma préférée, c'est celle-ci. Vous êtes prête?
Oui.
Donc, on va, dans un bol, mettre l'équivalent de 4 cuillères à soupe de sucre roux bio, de préférence.
Du sucre roux?
Mais oui, c'est très doux, vous allez voir.
Ça pour les gâteaux, Julia, et pour le gommage.
Et pour le gommage. Et vous allez pouvoir mélanger à ça 4 cuillères d'huile de jojoba. Donc, je vous rappelle quand même que l'huile de jojoba est une action très nourrissante, protectrice, et elle a la particularité donc de se rapprocher du sébum produit par le corps humain. Donc c'est vraiment, elle est absolument incontournable dans la trousse beauté au naturel.
Alors je comprends pas, si ça gomme, comment ça peut hydrater en même temps? Moi j'aurais plutôt pensé que le fait d'exfolier, ben, ça irritait, mais pas ça hydratait en tout cas.
Eh ben non, parce qu'il faut savoir que plus vous gommez votre peau et plus les fibroblastes se mettent en action.
C'est quoi ça les fibroblastes?
Ben, voilà. Qu'est-ce qu'un fibroblaste? Le fibroblaste c'est une cellule qu'on va retrouver au niveau du derme de la peau. Et il faut savoir quand même que pour nous, les femmes et les hommes, ce sont nos meilleurs amis. Un fibroblaste, ça permet de défendre la peau en fabriquant du collagène et des fibres d'élastine.
Alors, j'ai entendu dire que certains aliments aussi pouvaient nous faire préserver un beau bronzage. Qu'est-ce qu'il faut manger pour rester bronzé?
Alors, pour rester bronzé, évidemment, on va privilégier la bêta-carotène. On peut en trouver dans tout ce qui est carottes, betteraves, poivrons rouges. Mais, le petit plus qui fait un grand tout et que beaucoup de personnes ne connaissent pas, c'est le l'urucum du Brésil.
C'est quoi ce truc-là?
Alors, l'urucum du Brésil, je me suis entraînée beaucoup pour le dire. Donc, c'est un arbre tropical d'Amérique du Sud, comme son nom l'indique. Il produit des fruits rouges qui s'appellent le roucou. Mmh. Et le roucou, il faut savoir que dans la civilisation Inca, ça sert à protéger la peau du soleil, des moustiques. Et donc, c'est pour ça qu'on leur donne souvent le surnom de peau rouge. Mais au-delà de ça, l'urucum, c'est vraiment la plante qui illumine votre peau avec ou sans soleil.
Très bien. Merci beaucoup, Maud Ravier, d'avoir été avec nous. Sois Zico également. On vous retrouve toutes les deux très bientôt pour d'autres tendances. En attendant, Julia, place à la santé et au bien-être dans Bienfait pour vous.
Et oui, Mélanie, le sujet de notre dossier santé qui va suivre, c'est notre bête noire à toutes les rentrées, les poux. Alors, je suis sûre que certains parents ont déjà la chair de poule rien que d'entendre ce mot. Ou alors, ça vous gratte déjà la tête comme moi. Enfin, cette fois, on va vous donner les vraies astuces, les conseils qui fonctionnent vraiment pour s'en débarrasser des poux. Alors, à tout de suite sur Europe 1.
Europe 1,
11h30,
bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
De retour dans Bienfait pour vous, votre nouveau magazine dédié au bien-être et au mieux vivre. Et jusqu'à 12h30 avec Julia Vignali, on met tous les jours votre santé, votre bien-être à l'honneur. On vous dorlote.
Et oui Mélanie, avec chaque matin notre dossier santé et un invité quotidien. Et aujourd'hui c'est le docteur Areski Isri, il est parasitologue. Et on lui a donné une mission, nous dire une fois pour toutes ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas pour se débarrasser des poux. Vous aussi vous avez tout essayé, les enfants sont encore revenus colo avec ce cadeau. Eh bien, grâce à nous, vous saurez comment réagir, c'est promis.
Allez, à 12h20, ce sera notre chronique vite fait, très bien fait. C'est Sana Blanger qui la porte aujourd'hui. Sana, vous êtes coach en développement personnel et en QVT, qualité de vie. Nos auditeurs vous connaissent déjà sur Europe 1 parce que vous animez régulièrement la Libre Antenne. Et donc, avec vous, on va découvrir qu'on peut se soigner, se faire du bien profondément grâce à l'écriture.
Absolument. Une pratique très simple qui fait partie des fondamentaux du bien-être ou du mieux-être, parce que en plus, à la portée de tous, et on l'oublie
l'écriture. Mais oui.
Ah, merci Sana, on vous retrouve dans quelques minutes. Tout de suite, c'est notre dossier santé du jour.
Europe 1.
Maman, ça me gratte, derrière les oreilles, au niveau du cou, c'est le pic que ça gratte. Regarde ma tête, je suis sûre que c'est les poux. Non, pas les poux! Non, pas les poux!
Voilà, c'est parti, ça gratte déjà pour une demi-heure consacrée à notre santé, notre bien-être avec ce sujet ce matin, un sujet de rentrée. Mais ça peut être un combat de toute l'année, la chasse aux poux sur la tête de nos enfants et même la nôtre. Parfois, Julia, je vous vois, vous êtes déjà en train de vous gratter. Voilà, pour nous aider dans cette bataille, pour aider Julia qui se gratte déjà, notre invité est avec nous, c'est le docteur Areski Isri. Bonjour!
Bonjour!
Vous êtes parasitologue et chef de service à l'hôpital Avicenne de Bobigny. Alors ce combat contre les poux, on va le mener ensemble. On va commencer peut-être par un peu d'histoire. Les poux, depuis quand ça existe? Depuis quand ils nous pourrissent la vie sérieusement? Parce que je crois que ça fait un bail. Hein.
Depuis la nuit des temps. Les poux sont sur nos têtes. Hein, quand on habitait dans les grottes, quand l'homme était encore dans les grottes, il avait des poux déjà.
On en a retrouvé sur des momies, je crois. Hein.
On les retrouve sur des momies égyptiennes, des momies également en Amérique latine, donc indienne. Et puis, ça a jalonné toute l'histoire.
Alors, au microscope, ça ressemble à quoi un pou, rapidement en aparté?
Un pou est un insecte hein, qui mesure à peu près 2 mm. Il a une tête, un thorax et un abdomen. Il a 6 pattes et chaque patte se termine par une griffe, une pince en fait, qui lui permet de bien accrocher les cheveux.
Ah, ils accrochent, c'est bien fichu, un pou. Hein, mais je crois que quand on les regarde au microscope, et notamment quand ils s'accouplent, les poux, c'est assez acrobatique. Ils sont beaucoup plus forts que nous.
Là, ils font beaucoup de gymnastique. Hein. Quand ils s'accouplent, c'est le mâle qui passe sous la femelle, qui redresse sa partie postérieure, qui va chercher la femelle, il s'accouple. Et ils restent comme ça, ils passent leur temps à jouer.
Oh là là.
Mais aussi à se nourrir de sang et à pondre des œufs pour les femelles.
C'est sympa d'être un poux.
Ça a l'air presque sympathique. Là,
ouais, exactement. Alors là, on en parle forcément parce que c'est la rentrée, les poux. Donc les parents sont sur le qui-vive, les enfants rentrent de colo, ils sont bourrés de poux. Mais en fait, les poux, c'est toute l'année. Hein.
Les poux, c'est toute l'année. Et c'est vrai que chaque année à la rentrée, c'est le branle-bas de combat parce que les enfants vont rentrer en classe et on n'a pas envie qu'ils contaminent la maîtresse, bien sûr, mais aussi leurs camarades.
Alors on va passer au plus important, hein, qui sont les moyens de s'en débarrasser. Il y en a des tas, hein, des produits, des Pouxi, Tapezi, les compagnies. Moi franchement, je crois que je les ai tous testés. Ça coûte très cher en plus et pourtant, tous ces produits moi, que j'achetais régulièrement pour mes enfants petits, sur les emballages, il y avait écrit 100% efficace. Bon, franchement, j'en ai vu aucun qui était 100% efficace. Ils nous mentent alors? C'est quoi? C'est de la publicité mensongère?
Les produits qui sont vendus en pharmacie, aujourd'hui, la plupart de ces produits, ce sont des produits de synthèse, des huiles, etc. Ça peut marcher quand ce sont des huiles qui noient le pou, par exemple, comme tout ce qui contient la diméticone. Mais tout ce qui est insecticide, ça ne marche pas. Mais pour que ça marche à 100%, il faut en fait plonger la tête de l'enfant dans l'huile, dans le produit, quoi.
Complètement, il faudrait
complètement.
Oui, c'est comme ça en fait, quand ils mettent 100% d'efficacité sur l'emballage, c'est qu'ils les ont testés en laboratoire.
En laboratoire.
On a noyé les poux, mais et pas voilà. Les têtes des enfants en fait,
mais
c'est
on va
ça.
Pas faire avec la tête des enfants.
Ah oui, j'ai eu peur, donc... j'ai cru que c'était une préconisation.
Non non non. Donc c'est pour ça que c'est pas 100% dans la vie réelle, ça serait
ça
quoi? C'est peut-être 50
pour... pas ouais. à 100%, c'est
50.
Sûr. Les essais cliniques avec ces produits donnent 60 à 80% d'efficacité, mais quand on applique le produit sur la tête de l'enfant, donc quand on ne plonge pas la tête de l'enfant dans le produit, eh bien, on n'arrive pas à tuer tous les poux, on n'arrive pas à tous les noyer. Mmh. Et donc, il y a des échecs.
Alors, je vous entendais parler d'huile.
Vous continuez à vous gratter d'ailleurs,
oui,
depuis le début.
C'est, hein. Mais c'est fou, hein. C'est comme quand les gens baillent, vous baillez, et quand on parle de poux, je me gratte.
Pourquoi on se gratte, docteur, comme ça? Pourquoi elle n'arrête pas de se gratter,
Julien?
Ah ouais, on parle de poux, on se gratte, quoi.
Peut-être qu'elle a déjà connu ça par le passé.
Moi, jamais de poux dans la famille. D'ailleurs, non, mais je rigole avec ça parce que c'est presque honteux. On a honte de dire que nos enfants ont des poux. Alors,
je vous assure que ce n'est pas une honte de ne pas avoir de poux. Hein. Alors, il y a des gens, oui, c'est la question de est-ce qu'on a une tête à poux ou pas. Bon, en général, quand je discute avec quelqu'un là-dessus et que j'ai des poux sur la table, je lui demande ses cheveux et les poux s'y accrochent tout de suite. Hein. Mmh. Donc ça va sur tout le monde, mais on ne se conduit pas de la même manière tous. Il y a des gens qui se contaminent plus facilement parce que leurs cheveux vont au contact de la tête qui a des poux. Et là, on attrape des poux.
D'accord. Déjà, il faut avoir des cheveux, en fait, pour avoir des poux. Si on n'a pas de cheveux, on n'a pas de poux. On est d'accord, ça va pas juste
ça, c'est sûr.
Sur le pot, la peau, le crâne, c'est
zéro,
pas possible.
Il n'y a jamais de poux dessus.
Ouais, ouais, c'est ça.
C'est une bonne solution, hein, si les huiles n'ont pas marché. D'ailleurs, en parlant d'huile, vous pensez qu'on peut utiliser des huiles maison? Je pensais à l'huile d'olive ou l'huile de coco.
Si c'est pour les étouffer, après
bah
tout,
oui, ouais, c'est ça.
Alors, il y a beaucoup de gens qui ont essayé ça. Il y a des publications là-dessus. Ça ne marche pas.
Ah bon? Ah,
désolé. C'est exactement comme pour la diméticone. Si on ne plonge pas le pouls entièrement dans l'huile, cette fois-ci, je n'ai pas dit la tête, eh bien, ça ne marche pas.
Sinon, il y a quand même le fameux, le célèbre peigne à poux. Bon, je crois que j'en ai 4 ou 5 à la maison, je les ai tous testés. Mais moi, ce que je préfère, c'est ceux avec les dents en métal. Je ne sais pas, c'est une petite préférence. Mais est-ce qu'il y en a un? Je crois qu'il y en a un que vous avez, qui est votre peigne chouchou, sans faire de publicité particulièrement. Mais il y en a un qui marche mieux que les autres, je crois.
Oui, tous les peignes fins. Peigne à poux peuvent marcher. Quand on a des cheveux courts et raides, faciles à coiffer, donc on fait ça tous les jours, ça peut marcher. Il y en a un, effectivement, je ne dirais pas le nom, qui a des dents métalliques, mais très, très petites et très fines. Ça marche très, très, très bien, ça enlève même les lentes. Mais les dents longues, c'est une torture pour les enfants.
Il ouais. Y en a des électriques, même maintenant, des peignes à poux électriques, ça sert à quelque
plus,
chose?
Ça ne
non
marche pas.
Non.
Ça donne des petites décharges électriques pour l'enfant, mais le poux, ça le laisse tranquille. Ça prend quelques poux, pas beaucoup. Ça ne marche pas, c'est pas terrible.
Bon, bah super, là on a parlé de tout ce qui ne marchait pas. Il y a plein de trucs qui ne marchent pas, c'est super. Hein. On a gagné du temps. Maintenant, on va révéler un secret bien gardé. Il y a
un médicament quand on veut se débarrasser des poux, très efficace, en une fois, un comprimé et c'est réglé. C'est quoi ?
Il y a un pic d'audience, Julia, là, attention hein.
C'est quoi ?
Alors, vous parlez de l'ivermectine, certainement. L'ivermectine est un produit qui marche très très bien. Les inventeurs ont eu le prix Nobel il y a 4 ans de ça à peu près pour ce médicament, qui est un peu le médicament miraculeux en parasitologie. Ça marche contre les vers, contre les poux, contre la gale, contre beaucoup de choses.
Et pourquoi on ne prescrit pas
il
ça à tout le monde ?
Il est extraordinairement efficace. C'est pas un comprimé, c'est un comprimé pour 15 kilos. Donc si vous faites 45 kilos, ça vous fait 3 comprimés, voyez ?
Donc, et pourquoi on nous a caché ça ? Pourquoi on nous a caché ça, docteur ? Pourquoi il n'y a pas, il y a peut-être pas d'autorisation de mise sur le marché dans cette indication, d'ailleurs, je ne sais pas.
Les résultats de l'étude ont été publiés en 2010 dans un journal très célèbre, le New England Journal of Medicine, et dans d'autres journaux pour d'autres études. Mais effectivement, le laboratoire qui commercialise n'a pas demandé l'extension de l'AMM de ce médicament au pouls. Il y a déjà l'indication vert, indication gale, mais pas pouls.
Donc voilà. C'est l'ivermectine, hein, ce médicament, et c'est un comprimé pour 15 kilos. Donc pourquoi finalement aujourd'hui, il y a quand même pas mal de mamans hein, qui galèrent, des fois qui passent l'année entière avec les enfants qui ont des poux, voire même les mamans qui en attrapent aussi, puis toute la famille finalement. Si les généralistes ou les pédiatres nous prescrivaient ça, on gaspillerait moins d'argent dans des produits qui ne fonctionnent pas très bien.
C'est un antibiotique, et comme tous les antibiotiques, il peut connaître une résistance, et ce n'est pas automatique, effectivement. Et aujourd'hui, on a les huiles qui peuvent marcher. Si on applique, par exemple, un produit à base d'huile d'imethicone, on peut le répéter quand on veut, ce n'est pas toxique, on peut le répéter plusieurs fois. Et si ça ne marche pas à 100% du premier coup, au bout de la troisième, quatrième fois de suite, en l'espace de 10 jours, 15 jours, ça marche. Ça
ouais, finit par 15 marcher. Jours avec des poux, quoi. C'est pénible quand
oui,
même.
Mais
quand
et quand les cheveux gens, ils sont longs. Pendant des mois, ouais. Des années, donc 15 jours, c'est rien du tout finalement.
Hein. Et ouais. Alors, vous disiez qu'il n'y a pas de risque en particulier, mais même pour les plus jeunes de nos enfants.
Il n'y a pas de risque particulier. Je vous dis juste, c'est un antibiotique, donc il faut éviter de l'utiliser souvent. Nous, on le réserve aux familles qui ont des pédiculoses difficiles à traiter.
Pédiculose, c'est le fait d'avoir des poux de manière chronique un peu.
Voilà, ouais. Ils n'arrivent pas à s'en débarrasser. Alors, les moins de 15 kilos, on ne le recommande pas. Mm-hmm. Hein, c'est le Vidal, hein, c'est les recommandations. En fait, on peut descendre un petit peu plus, mais c'est pas recommandé. C'est même utilisé chez la femme enceinte pour mm-hmm. traiter la gale, par exemple, dans certains hôpitaux. Mais sinon, il n'y a pas de contre-indication.
Donc, les femmes enceintes peuvent prendre le médicament que vous nous avez cité ?
Certains hôpitaux le prescrivent.
D'accord. J'ai entendu dire aussi que, pour nous, les femmes qui se faisons teindre les cheveux, une bonne teinture peut venir à bout des poux. C'est vrai, ça ?
Alors, si vous prenez un poux et vous le traitez avec la teinture, vous le tuez, c'est sûr. Mm-hmm. Mais une tête, elle peut se recontaminer juste après la teinture.
Oui, ah, mais oui. Bon, en tout cas, si on en a, faire une teinture, c'est un moyen de s'en débarrasser efficace.
C'est très bien.
Efficace. Très bien.
11h30 sur Europe 1, bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
C'est bien fait pour vous jusqu'à 12h30. On est toujours en studio avec le docteur Areski Izri. Je rappelle que vous êtes parasitologue et chef de service à l'hôpital Avicenne de Bobigny. Et grâce à vous, on va en finir enfin avec les poux. Et on a déjà beaucoup de questions hein, de parents, évidemment, au 3921 sur notre répondeur. Il y a par exemple Aurélie de Levallois qui nous demande si le fameux médicament dont vous avez parlé, on peut le donner même à des enfants très jeunes. Sa fille a 3 ans, presque 4 ans, et a passé toute l'année dernière quasiment sans répit avec des poux. Alors, vous y avez déjà un peu répondu. À 4 ans, on pèse combien ?
Ça dépend. Il y a 16, des enfants qui 16 sont à 15 kilos, ouais. D'autres déjà à 20 kilos, voire plus.
Donc ce n'est pas l'âge qui compte, c'est vraiment plus de 15
kilos.
C'est le
poids.
Plus de 15 kilos, voilà. On a répondu à Aurélie.
Docteur Isri, on l'a dit, donc on prend quelques questions de nos auditeurs. On a par exemple aussi Barbara, qui est une heureuse mamie, mais dont les petits-enfants ont passé du temps chez elle hein, jusqu'à mercredi. Sa fille vient de l'appeler pour lui dire « Au fait, maman, il y avait des poux à lâcher de moi chez toi. Mes enfants en étaient pleins. Doit-elle tout laver chez elle, y compris comment traiter son canapé sur lequel ils ont passé beaucoup de temps ?» C'est une question très concrète et de vie quotidienne. Docteur, qu'est-ce qu'on peut répondre à cette mamie ?
Vous n'avez pas traité ni le canapé, ni le lit, ni les têtes d'oreiller. Les poux de tête sont sur la tête et seulement sur la tête.
Et du coup, les draps, tout ça, on en fait
ni
quoi ?
Ni les draps, ni rien du tout. Sauf si vous coiffez votre enfant au-dessus du lit, là, des poux peuvent tomber. Et même s'ils tombent, ils ne vont pas survivre longtemps. Hors de la tête, un poux meurt en 6 à 10 heures à peu près.
Ah oui, donc il peut même redormir le soir même dans les mêmes draps sans qu'on les lave,
sans
en fait.
Problème,
ah
sans oui. problème.
Ah bah c'est déjà du travail en moins.
Quelques de lessive, j'aurais pu éviter si j'avais su.
Alors, on a aussi ce message sur Twitter de Clémentine qui a 42 ans. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à nous laisser vos questions sur le hashtag Europe 1. On vous répond dès que possible. Donc, je reprends. Clémentine demande s'il est vrai qu'une goutte d'huile essentielle de lavande derrière les oreilles des enfants permet de faire fuir les poux.
Alors, il n'y a aucun répulsif efficace contre les poux. Il n'y a rien qui les empêche de venir sur la tête. Si vos cheveux touchent la tête de quelqu'un qui a des poux, vous allez attraper des poux même avec un litre de lavande. Hein ? Nous avons testé à peu près tous les répulsifs qui existent en pharmacie. Nous avons traité des cheveux avec ça. Nous les avons proposés aux poux. Les poux s'accrochent sans aucun problème à ces cheveux.
Parce que vous les aimez, vous les élevez même les poux, non ? Vous faites alors, partie des seuls Français qui aiment ça, quoi.
Mais je vais vous faire un aveu. J'aurais bien aimé pouvoir les élever les poux têtes. Personne ne sait le faire.
Ah bon ? C'est compliqué.
On sait élever une sorte de poux, c'est des poux de corps qu'on a adaptés au lapin et c'est la seule souche qui tourne dans le monde entier.
Alors justement, il y a une question qui se pose, que Sana, qui est présente avec nous, se posait. C'est est-ce que les poux, ça peut aller à d'autres endroits que les cheveux, que les têtes ? Est-ce que ça peut se mettre sur des poils, sur notre corps, sur les moustaches, sur les barbes des messieurs ?
Alors les poux de tête ne vivent que sur la tête. Ils sont vraiment adaptés à la tête. C'est une niche écologique extraordinaire pour eux. Leurs pattes sont adaptées pour s'accrocher aux cheveux. La forme même de la femelle, elle a l'extrémité de l'abdomen, hein, le ventre, qui est adaptée pour accrocher le cheveu et y coller ses lentes. On les sort de la tête, les poux meurent. Ils ne vont pas ailleurs. Ils ne vont pas sur les autres poils. On ne va pas les retrouver sur le thorax, la barbe ou le pubis. Mais on a d'autres poux qui peuvent vivre à ce niveau-là. Les morpions vivent au niveau du pubis. Et quand ils sont sur le pubis, parfois on les retrouve au niveau de la barbe chez les messieurs. Je ne sais pas comment ils y arrivent.
On a compris, effectivement. Donc vous voulez dire quand même, je reviens sur un truc, parce que moi j'ai quand même quelques souvenirs de lessive, pas possible, tous les draps, où on m'avait dit aussi de tout enfermer dans un sac poubelle et de laisser au moins 3 jours comme ça en fait ça ne sert à rien, juste 12 heures éventuellement dans mon sac poubelle si je veux, doudou, écharpe, enfin tout ce qui, où il pourrait y avoir des poux, mais pas plus, ça sert à rien de tout laver à 60 degrés, on m'avait dit.
Alors, ce que vous me dites là, les sacs poubelles, c'est vraiment la pire des choses à faire.
Ah bon, j'ai fait n'importe quoi jusque-là, vraiment.
Non, honnêtement, c'est la pire des choses à faire. Parce que le poux, il ne survit pas hors de la tête. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas l'humidité, la chaleur, etc.
Donc je leur ai donné une chance de survivre, en fait.
Et quand vous les enfermez dans un sac, vous leur donnez d'excellentes conditions de survie, l'humidité, justement, dont ils ont besoin, la chaleur, ils ne sont pas actifs. C'est vrai qu'il va leur manquer le sang. J'ai vu des poux de corps cette fois-ci, pas des poux de tête, sortir de sacs où ils étaient enfermés depuis plus de 3 jours et avec un insecticide en plus.
J'ai fait vraiment n'importe quoi, docteur.
On ouvre le sac et les poux, ils sortent de là. Ah, enfin, un peu d'air.
Mais c'est un film d'horreur, ce qu'il y a de gratter
partout.
C'est incroyable. Bon, merci beaucoup, docteur Isri, d'avoir été avec nous. Merci pour toutes ces explications, ces conseils pour en finir avec les poux, grâce à vous, j'espère. En tout cas, moi, je vais passer une meilleure rentrée de 2021, la plus paisible possible, en tout cas bien armée.
Merci
Julia,
à vous.
Je pense qu'il est temps de passer à la chronique vite fait. Très bien fait.
Oui, tout à fait, Mélanie. C'est à votre tour, Sana Blanger, de nous faire du bien. Et ce matin, vous allez nous faire du bien en prenant un petit papier et un stylo, notre plus belle plume. De quoi s'agit-il ?
Eh bien, en fait, c'est tout simplement de parler des fondamentaux donc, du bien-être, du développement personnel et de rappeler tout simplement que l'écriture est à notre portée et qu'elle nous apporte des bénéfices, enfin du bien-être. En fait, la première question que j'avais envie de vous poser, c'était « Mesdames, comment allez-vous ? Comment vous sentez-vous »
Très bien, écoutez, je me sens très bien. Pourquoi vous me posez cette question ? Parce que c'est une question importante à poser.
C'était pour la suite, c'était pour la transition de... c'était pour m'aider à expliquer, en fait, tout simplement que, eh bien, quand on ne va pas bien, ou quand on s'énerve, ou quand on a un coup de mou, eh bien, tout simplement, certains vont choisir, par exemple, de se dépenser à l'occasion d'une balade ou de sport, donc de vraiment se fatiguer et de penser à autre chose. D'autres vont tout simplement appeler un ami ou en parler à leur chérie ou un collègue, voire même parfois, par peur du jugement, on peut parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on croise.
Ça peut faire du bien, c'est vrai.
Ça fait du bien, donc une rencontre fortuite, ça peut être notre coiffeur, Ça peut être notre esthéticienne, notre barbier, le chauffeur de taxi. Enfin, voilà, des personnes pour qui, finalement, il n'y a pas de jugement. Donc, quand on ne va pas bien, c'est vrai que c'est des pratiques aujourd'hui qui sont à la portée de tous. Et puis, il y a d'autres choses également. On va créer un sas de décompression. On va rechercher la solitude, un moment d'isolement pour chercher le calme.
Donc en fait, si je comprends bien, Sana, vous nous conseillez de revenir au journal intime ?
Eh bien, c'est un peu ça. C'est le rôle du journal intime. Effectivement, c'est tout simplement de pouvoir poser les mots. Alors, ça rappelle pas mal de choses. C'est vrai que c'est assez féminin, le journal intime. D'ailleurs, Bridget Jones, le journal de Bridget Jones, hein, c'est vraiment un peu l'image. Mais effectivement, c'est vraiment recommandé parce que finalement, c'est une pratique qui se fait à tout âge et pour tout le monde.
Est-ce que les femmes ne vont pas avoir plus de facilité peut-être que les hommes dans cette pratique de l'écriture thérapie, entre guillemets ?
Alors oui, Mélanie. Il est vrai que les femmes dans l'histoire ont trouvé dans leur journal intime un exutoire, alors que les hommes avaient la parole et l'expression publique en exclusivité. Donc si les deux pratiquaient l'écriture, les femmes bénéficient certainement d'un héritage généalogique, d'introspection plus naturelle. Et d'ailleurs, seuls 8% des Français pratiquent et tiennent un journal intime, selon la dernière étude des pratiques culturelles en France.
C'est peu, hein, finalement.
C'est très peu.
Vous en avez un, vous, Julia, de journal ?
Non, j'aurais trop peur qu'on l'ouvre et qu'on tombe dessus. Ça me fait trop peur, moi,
Sana. Et pourtant, un petit journal bien sympathique, vraiment, c'est ce que je préconise toujours, c'est d'aller acheter un journal qui est très joli, qui nous plaît, donc pas forcément que les femmes, également les hommes, un journal dans lequel on écrit tout, on le cache bien, bien sûr dans son sac ou autre, hein, pour que personne ne tombe dessus. Mais je vous assure que dès qu'on s'énerve et qu'on a envie d'insulter quelqu'un, on prend son petit journal et on écrit et on se lâche.
Mais alors on écrit quoi dedans ?
Des insultes.
Ah génial.
Bon, ben oui. ça soulage bien d'un coup.
Mais oui, c'est ça. Ça soulage. On écrit ses états d'âme également, ce qui nous a plu dans la journée, ce qui ne nous a pas plu dans la journée. Et clairement, bah, finalement, c'est le pouvoir de l'écriture, c'est de pouvoir relativiser.
Comment on s'y prend ? Je crois que vous avez une petite technique un peu ludique pour s'y mettre avec un chrono, il me semble.
Absolument. Alors, ce que je vous propose, tout simplement, c'est de libérer de l'espace de votre cerveau. Souvenez-vous, quelqu'un nous l'avait préconisé en regardant les pubs. Mais là, c'est de renouer avec vos envies, vos émotions et vos sensations. Donc, la technique, la voici, elle est très simple. On trouve un sujet inspirant, quelque chose qui nous est arrivé dans la journée. On prend un minuteur ou alors le chronomètre de notre portable. 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, pas plus. Et on se met à écrire. Et on écrit jusqu'à ce que le temps soit écoulé. Et en fait, vraiment, le principe, c'est de retrouver cet automatisme, donc à faire tous les jours. D'ailleurs, mesdames, est-ce que vous savez combien de temps mettons pour qu'une habitude devienne un automatisme ?
Non, aucune idée.
Alors, la presse nous dit 21 jours, mais en fait, c'est 3 mois. Et tous les jours. Donc, si tous les jours, vous écrivez 1 minute, c'est rien, une minute dans la vie, dans la journée.
C'est vrai.
Donc, eh bien, tous les jours pendant donc 90 jours, ça devient l'automatisme. Et donc, dès lors que vous ressentez un besoin d'extérioriser, d'être énervé ou autre, hop, on écrit. Feuille et on écrit.
Bon, bah, c'est bien. Écoute, on a les bienfaits, en plus la technique. Merci beaucoup, Sana, pour tous vos conseils.
Vous.
On vous retrouve dans Bienfaits pour vous très bientôt. Voilà, c'est la fin de cette émission. On sera de retour lundi à 11h. Et Julia, dès lundi, on aura une nouvelle question.
Et oui, Mélanie, lundi, une grande question qui sonne presque comme une bonne résolution. Aïe, 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 peut-on arrêter de fumer pour de bon ? Oh non. Et quels sont les meilleurs moyens pour y parvenir ? On ne culpabilisera personne, c'est promis.
Non,
on essaiera juste de vous aider, de vous accompagner au mieux.
Et puis il y aura aussi de nouveaux sujets tendances de la santé, du bien-être. D'ici là, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur Twitter avec le hashtag Europe 1 ou sur le répondeur de l'émission 3921. Alors à demain, dès 11h sur Europe 1.